Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, votre nouveau rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort, on s'amuse à opposer des personnages de fiction, des animaux, des actrices ou des acteurs, ou même des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. On le fait pour le simple plaisir de l'exercice, et puis aussi pour découvrir des choses de manière ludique. Nous allons aller au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question « C'est qui le plus fort ?». Aujourd'hui, on va mettre en scène le combat de deux des entités les plus puissantes de la pop culture mondiale. L'un détruit des immeubles à tour de bras depuis 1954 et l'autre dort au fond de l'eau n'attendant que son réveil pour anéantir l'humanité. Rien que ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le combat oppose Cthulhu à Godzilla. Pour faire vivre cet affrontement, j'ai fait appel à un expert aux multiples passions, parmi lesquels figurent nos deux combattants du jour. Salut Rico, comment ça va ?
Cthulhu, Cthulhu.
Alors, je traduis pour nos auditeurs, ça veut dire oui, ça va, et toi ?
Est-ce que c'était ça ? Ça va très bien Martin, oui, approximativement. C'est Cthulhu attend.
Bon,
tout le rêve et temple, de façon plus précise, c'est une des injonctions et que les adorateurs de Cthulhu se lancent pour se reconnaître en attendant le réveil de leur maître.
Là, c'était ça qui m'a dit le gars l'autre fois là, quand il m'a rendu la monnaie avec mon pain.
Oui, c'est ça, deux croissants et deux croissants et un grand ancien.
Rico, on te connaît pour ton travail avec Nanarland et plus récemment avec le podcast Shark Parade qui passe ça en revue l'intégralité du cinéma de requins. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Oui, on essaie d'être le plus exhaustif possible. On traite deux films par émission. Au moment où on enregistre, on est à la 19e émission. On a fait 38 films. Et bah, sur ma boîte à requins, il m'en reste encore près d'une quarantaine. Et j'en retrouve encore, dernièrement, j'en ai retrouvé une dizaine, dont certains avec des titres invraisemblables du style Toxic Shark, Nightmare Shark, Santa Joe's aussi, que j'aime beaucoup, avec un requin de Noël.
Putain, c'est comme c'est comme le Pec Citron, quoi. Quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Ouais, le problème, c'est que les titres sont souvent meilleurs que les films.
Oui.
Il y a du déchet.
Bon. Du coup, avant de monter sur le ring, est-ce que ça t'embêterait de refaire un petit peu le portrait de chacun de nos combattants du jour ?
Oui, les deux challengers.
Alors, challengers,
on va commencer par le plus ancien. Alors, donc Cthulhu, alors la prononciation même de Cthulhu est sujet à débat. Cthulhu. Normalement, ce serait quelque chose si on, c'est pas prononçable théoriquement par des organes humains, puisque c'est blasphématoire et c'est divin. Donc, ce serait quelque chose du style, si on voulait vraiment mettre l'accent tonique. Bon, on va rester un petit peu général. En tout cas, donc Cthulhu a été créé par Howard Philip Lovecraft, qui est un écrivain américain qui a vécu au début du XXe siècle. Cthulhu apparaît dans son grand œuvre, donc ce qu'on appelle le mythe lovecraftien ou le mythe de Cthulhu, notamment dans un ouvrage de 1926 qui s'appelle L'appel de Cthulhu, et qui est constitué en fait de trois nouvelles met des gens ordinaires des années 20 face à l'immensité cosmique. En fait, le principe, pour vraiment faire simple, le principe de l'univers lovecraftien, c'est que en fait derrière notre réalité il existe des entités quasi divines, tellement puissantes et tellement différentes de nous, tellement monstrueuses que les voir nous rendrait fous. Ce sont des créatures qui ont créé l'univers, qui le détruiront un jour, selon, on va dire, leur mode de pensée, leur bon plaisir. Et l'humanité n'est rien, n'est qu'un fétu de paille. Et parmi ces créatures qui rendent fous et qui sont adorées par des déviants et des déjantés, existe notamment Cthulhu, qui serait emprisonné au fond du Pacifique Sud, dans l'antique cité de Riliae, qui a été engloutie sous les flots, il y a de cela des éons et des éons, et qui attend l'alignement des planètes, l'alignement des étoiles, pour pouvoir émerger et reprendre sa place au sein du monde, et en attendant, qui rêve dans sa cité engloutie. Et ces rêves perturbent les humains, les rendent fous, les rendent plus ou moins sensibles à ce réveil. Voilà pour le premier. Quant à Godzilla, il est un petit peu plus connu, hein. C'est une création des studios Toho de 1956, je crois.
54, je crois.
54, pardon, autant pour moi. Donc le premier film d'Inoshiro Honda, Godzilla, c'est en quelque sorte une réponse à King Kong de la part des Japonais, parce que très clairement, Godzilla, finalement, c'est une extension de King Kong qui avait fait une forte impression sur le cinéma japonais. Ils ont fait d'ailleurs deux films de King Kong qu'ils ont perdus, dont les bandes sont considérées comme définitivement perdues. Et Godzilla, c'est une sorte de grand lézard ou de dinosaure, ce n'est pas très très clair. En tout cas, c'est une créature qui a été réveillée par les expérimentations atomiques humaines, qui s'est chargé justement de cette puissance atomique, et qui là aussi un petit peu comme une incarnation de la nature qui vivrait sa vie, a jailli hors de l'eau et écrase tout sur son passage, non pas par méchanceté, non pas par cruauté, simplement parce que comme la nature, c'est une force qui va. Et l'humanité, de toute façon, ne peut pas faire grand-chose face à elle, puisque ils ont beau envoyer l'armée, ils ont beau envoyer des tanks, des avions, ils ne font même pas qu'égratigner ce monstre géant qui va vivre une trentaine d'aventures au Japon, qui va évidemment être pris aux États-Unis, puis qu'avec le temps, va un peu s'humaniser. Donc il va commencer comme une espèce de créature terrifiante et monstrueuse, et puis au fur et à mesure du temps, il va devenir un peu l'ami des enfants, combattre d'autres monstres, puis redevenir une créature inquiétante. C'est un petit peu à l'heure actuelle, on va dire le retour à l'heure actuelle, que ce soit avec Shin Godzilla ou que ce soit avec les Godzilla américains, vers le Godzilla force inarrêtable de la nature. C'est un petit peu pour décrire un petit peu Godzilla face à l'humanité, et c'est un petit peu la force inarrêtable qui a toujours pas trouvé son objet inamovible pour l'arrêter.
Bon, d'accord. Eh ben écoute, ça me paraît clair pour celles et ceux qui peut-être ne connaissaient ni l'un ni l'autre, ou surtout l'un ou surtout l'autre. Écoute, on va pouvoir y aller, hein. Ça y est, c'est le début du combat.
It looks like Godzilla, but due to international copyright laws, it's not.
Still, we should run like it is Godzilla!
Though it isn't.
Ah! Alors, premier round. Qui a la plus grosse
audience? Tout de suite.
Audience.
Avant. D'accord, ok.
Pardon, parce qu'il y a eu un malentendu.
Non, ok, pas de soucis.
Qui a connu le plus de lecteurs ou de spectateurs, c'est selon, puisqu'ils sont pas sur le même média, qui est le plus connu finalement, d'après toi?
Alors, je mettrais le point quand même un petit peu à Godzilla, parce que, Cthulhu est plus ancien, il a surtout connu un succès en littérature, et ensuite, de façon un petit peu dérivée, c'est essentiellement quand même un succès littéraire. jusqu'aux années, je dirais, ce qui a aussi beaucoup fait connaître Cthulhu dans le grand public, c'est le jeu de rôle. Dans les années 80, il y a eu un jeu de rôle qui a été l'un des plus... Enfin, moi, ça a été ma porte d'entrée à Cthulhu, et ça a fait connaître énormément le mythe de Lovecraft à beaucoup de gens, parce que c'était le deuxième jeu de rôle le plus célèbre et le plus vendu en France, après Donjons et Dragons. Et donc, l'Appel de Cthulhu, c'était vraiment une référence. Après, il y a eu très peu de films. Alors, Cthulhu par lui-même, il est difficilement transposable, je pense qu'on en parlera après, mais c'est une créature dont l'apparence est presque un peu grotesque. C'est une espèce de poulpe géant avec des ailes, une forme vaguement humanoïde. Et de toute façon, il est difficilement représentable. Donc... Le cinéma l'a pas tellement utilisé. Il a utilisé d'autres œuvres de Lovecraft.
Assez peu quand même, hein, même.
Ah mais oui, il y a bien quelques films, mais qui sont des films semi-amateurs. Il y a un Cthulhu, il y a l'appel de Cthulhu, ou Cthulhu je crois, qui est un film des années 2000, mais qui est un film semi-amateur. Et justement, une des grandes caractéristiques, c'est que normalement, ce qui est Lovecraftien ne se montre pas. C'est-à-dire que l'idée centrale en fait de la littérature de Lovecraft, c'est qu'en fait on va ouvrir le voile sur des choses tellement blasphématoires, tellement abominables, que ça va vous rendre fou. Donc en règle générale, les nouvelles, parce que ce sont essentiellement des nouvelles, ainsi que les romans, sont écrits à la première personne, et le témoin finalement évoque quelque chose de grouillant, quelque chose d'abominable, quelque chose qui déchire l'âme et l'esprit, mais ne fait jamais de description précise, parce que finalement, ce sont des horreurs, justement, qu'on va appeler Lovecraftiennes, grouillantes, qui sont dans la pénombre, mais qui, de toute façon, sont trop abominables pour être décrites. Donc, ce qui fait que pour le cinéma, c'est assez compliqué. Donc, il y a beaucoup d'inspiration. Pour dire, par exemple, si on voulait avoir un monstre, je veux dire, Lovecraftien grand public, je trouve que le Alien, par exemple, serait une créature qui rentrerait parfaitement dans le bestiaire Lovecraftien, c'est-à-dire on a une créature qui se cache, dont on n'arrive pas véritablement à voir les contours, quand vous allez la voir, c'est déjà trop tard. Rien que son apparence va vous rendre, va vous terroriser sur place, peut même vous rendre fou, hein, comme dans Alien 3. Et voilà, c'est ce genre de créature, c'est souvent associé à des créatures avec tentacules aussi. Des choses comme ça, la tentacule ferait vraiment cthoulesque, comme on pourrait dire.
D'accord.
Mais il a été assez peu représenté. Alors que Godzilla, par contre, il y a une palanquée de films. Et il y a à boire et à manger. Là-dessus, tu vas pouvoir aussi un petit peu donner tes préférences, parce que tu es un grand admirateur de l'anarchiste urbaniste géant devant l'éternel, hein. Et l'iguane sous stéroïde, il a fait quand même pas mal parler. Alors, vas-y si tu veux un petit peu, parce que j'ai beaucoup parlé, mais si tu veux défendre un petit peu champion et
non, mais alors pour le coup, j'ai fait des recherches de mon côté pour essayer de quantifier un peu tout ça, parce que là c'est vrai qu'on a un ressenti assez clair sur le fait que Godzilla est plus connu que Cthulhu, et je pense que c'est véridique, parce que...
Vous dites Cthulhu à votre grand-mère, elle va vous regarder avec des yeux ronds, vous dites Godzilla, ça va lui évoquer quelque chose.
Exactement, c'est le test de la grand-mère. Au-delà de ça, j'ai envie de dire Godzilla, c'est le roi des monstres, mais c'est aussi le roi du box-office, puisqu'on est à peu près à 1 milliard de box-office cumulé au niveau international sur la franchise de Godzilla. Ça en dit long quand même sur le rayonnement international
faut pour rembourser les dégâts, hein.
Et il faut ça. C'est vrai que vu le prix d'un immeuble,
même en carton, ça coûte cher.
Même en carton, ouais. Donc premier round pour Godzilla, ouais, on est d'accord pour dire que Godzilla a une plus grande popularité.
Yeah.
deuxième round. Qui a le meilleur succès critique?
Alors, meilleur succès critique, là, je vais quand même donner le point à Cthulhu. Et à l'œuvre de Lovecraft de façon plus générale. Je veux dire, avant qu'on étudie Godzilla en université, avant qu'on ait quand même les...
Il faudra
les
que scripts... tu sois recteur ou prof en fac pour que ça arrive.
Oui, mais, ou éventuellement, moi, si j'arrive à y arriver le premier, mais... Mais voilà, c'est avant que les scripts des films de Godzilla soient dans la Pléiade, on a une petite marge. On a une petite marge quand même. Et bon, il faut bien avouer que il y a un vrai, il y a un vrai travail autour de Lovecraft. Il y a des études lovecraftiennes. Il y a des gens qui ont dédié leur vie à l'étude de tout. Alors il y a aussi des gens qui ont dédié leur vie à l'amour du Kaiju Ega. Hein, c'est pas la question. Mais là, il s'agit d'universitaires qui ont fait des essais en ligne. C'est-à-dire que la correspondance de Lovecraft, c'est quelqu'un qui a peu écrit de romans et de nouvelles. Finalement, et une bonne partie d'ailleurs sont inachevées, ont été un peu rebidouillées par d'autres auteurs qui étaient ses amis, ce qui fait que parfois il faut démêler ce qui a été écrit par Lovecraft, ce qui a été écrit par d'autres comme Derleth par exemple, ou Clark Ashton Smith, qui sont un peu ses continuateurs et qui ont vraiment un petit peu fait dériver le mythe de Cthulhu pour en faire un truc un peu gigantesque. Mais vous avez des études universitaires extrêmement sérieuses. On pense à Joshi par exemple, qui est un universitaire américain d'origine indienne, qui est un petit peu à l'heure actuelle la sommité autour de Lovecraft, et qui, je crois, ça doit être depuis les années 70, a consciencieusement ressorti toutes les lettres, et il a fait des milliers de lettres, c'était quelqu'un qui faisait énormément de correspondances de Lovecraft, et vraiment en analysant, mais mot par mot, en analysant vraiment tout pour essayer de décrypter de façon vraiment scientifique l'œuvre lovecraftienne. Et il y a énormément d'études, hein. Quelqu'un comme Michel Houellebecq, par exemple, a fait un ouvrage entier sur Lovecraft, qui reste un ouvrage extrêmement intéressant où il y a quand même cette qualité littéraire qui est mise en avant. C'est quand même un des grands maîtres de la littérature classique d'horreur, avec Poe par exemple, avec Jules Verne, en tout cas, c'est pas d'horreur parce que lui-même se décrivait plutôt comme un écrivain de science-fiction. Oui. L'horreur était quelque chose d'à part, c'est-à-dire qu'il était passionné par la science, mais un petit peu comme un H.G. Wells. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie des grands auteurs. Ouais.
De cette pardon, je t'ai interrompu.
Vas-y parce que je parle beaucoup
mais bon, moi je suis moins spécialiste que toi, mais c'est vrai que c'est un auteur qui a peut-être cristallisé, j'ai envie de dire, la formule de l'horreur moderne, que ce soit un premier temps dans la littérature, et finalement cette formule elle s'est retrouvée au cinéma beaucoup, même si lui-même n'a pas été adapté directement, assez peu en tout cas. Mais finalement, même sans ça, sa qualité d'écriture et son avant-gardisme, finalement, dans la façon de raconter des histoires d'épouvante, était tellement fort que ça a été matriciel pour pour tout le XXe siècle, j'ai envie de dire, et ça continue encore maintenant, la façon de raconter les histoires d'horreur, quoi.
Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est un peu comme Tolkien, il a créé un univers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a posé les bases d'un univers. En plus, comme finalement il a assez peu écrit, il doit y avoir, je sais pas, une trentaine de nouvelles à tout casser, et peut-être deux ou trois gros romans. Donc finalement, il a exploré pas mal de choses, mais il a laissé la porte ouverte à énormément d'auteurs, y compris des auteurs reconnus comme Borges par exemple, qui se reconnaît comme étant quelqu'un qui a vraiment travaillé dans la continuité de Lovecraft, et il a créé un univers, justement un univers lovecraftien, qui a été complètement développé, qui après a infusé vraiment dans dans toute la littérature, dans le cinéma, un film comme le The Thing de Carpenter, il est peut-être encore plus lovecraftien, puisqu'en plus il s'inspire d'une nouvelle, Les Montagnes Hallucinées, que Guillermo del Toro rêve de porter à l'écran, ce qui sera très compliqué. Parce que porter à l'écran du Lovecraft sans sombrer dans le ridicule, bah c'est vraiment un gros travail. Et donc oui, ça fait partie de ces grands auteurs classiques, et le Cthulhu finalement, il représente, on va dire, la figure emblématique de ces créatures blasphématoires et abominables qui sont la création de qui ont créé l'homme et l'univers tel qu'on le connaît et qui sont vraiment monstrueuses.
Très bien. Bon, alors, ça nous fait un partout. Allez, on va passer au point suivant qui est qui fait le plus peur. Je pense que bon, ça va être facile à trancher.
Oui, parce qu'il y en a un, c'est-à-dire vous le voyez, vous devenez fou. C'est-à-dire Cthulhu, c'est un des principes quand même de base, c'est que normalement déjà aucun langage n'arrive à prononcer son nom, et il est quasi indescriptible. Il y a une phrase qui dit que aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie qu'est Cthulhu quand il émerge de sa cité cyclopéenne engloutie. Et donc, dans la nouvelle de Lovecraft, justement, l'horreur de la mer, les Madness from the Sea, les marins qui découvrent la cité engloutie de Relier, quand ils essaient d'ouvrir les portes qui mènent à Cthulhu, il y en a, je crois, deux qui deviennent fous, deux autres qui se font dévorer, le dernier qui réussit à s'en tirer par miracle, mais en étant fou à jamais. Alors que Godzilla, alors au départ Godzilla, oui, c'est aussi une menace et c'est aussi quelqu'un qui fait peur. Et puis au fur et à mesure de sa carrière, c'est aussi un petit peu devenu l'ami des enfants. Il est quand même le gentil protecteur qui va aller tataner du monstre qui vient attaquer Tokyo. Et on peut avoir des peluches Godzilla. Enfin, on peut aussi avoir des peluches Cthulhu d'ailleurs. Ils vendent des peluches Cthulhu.
Oui, bon, j'allais le dire. Oui, Cthulhu aussi a son petit ses petits produits dérivés mignons, mais bon.
Voilà, mais bon, ça reste quand même, on va dire un petit écho. C'est comme j'ai une amie qui m'avait offert, je crois, le virus d'Ebola en peluche. C'est rigolo, mais de là à dire que le virus d'Ebola soit mignon, voilà, il y a une petite
dédicace.
Ouais, une petite dédicace.
Mais alors que Godzilla, bon. Quand même, au départ, c'était quand même une créature qui faisait très très peur dans les deux premiers films. Et puis après, effectivement, il y a des scènes dans le tout premier Godzilla, surtout celui qui est peut-être le plus sérieux de la saga avec peut-être Shin. Il y a des scènes où on voit à quel point il inspire la terreur aux êtres humains, quoi. Mais c'est vrai que bon, après,
c'est l'incarnation de la peur atomique, hein. Oui. C'est quand même à la base, c'est l'incarnation de la nature destructrice qui reprend ses droits, hein. On est quand même dans un pays, le Japon, qui se prend des tsunamis, qui se prend des séismes, et qui sait qu'un jour ou l'autre, le Japon pourrait repartir sous les flots. Donc il y a cette idée qui est très présente dans le cinéma japonais de la catastrophe, hein. Bon, ça a été très étudié sur la littérature et le cinéma japonais. Et puis il y a le souvenir d'Hiroshima de Nagasaki, c'est-à-dire des villes rasées par la puissance atomique. Donc la catastrophe naturelle, la catastrophe technologique, les deux se concentrent dans cette formidable force qu'est Godzilla. Qu'est l'incarnation de la catastrophe.
Ouais.
On peut pas faire grand chose, c'est pas qu'elle soit méchante, c'est pas qu'elle soit mauvaise, elle est là. Mais elle avance et on peut pas l'arrêter.
Mais effectivement, comme tu l'as dit, hein, il est ensuite devenu l'ami des enfants, il a quand même protégé la Terre deux ou trois fois, bon. Il fait moins peur. Hey there, Cthulhu, down there in your sunken city. You're a billion light years distant and the stars look very pretty from Relay. So close and yet so far away.
CIA. Cthulhu Fatagin, or is that Cthulhu Fatine? I can never quite remember, 'cause I'm not in my right mind since I met you. No one corrupts the way you do. You know it's true.
Bon, alors ça fait 2-1 pour le grand ancien. Alors, point suivant, qui est le plus stylé? Qui est le plus cool? Ah. Qui est le plus beau gosse, en fin de compte?
Ah ouais. là aussi, c'est une question, on va dire, un petit peu d'appréciation. Alors, faut rappeler un petit peu les looks quand même, parce que Cthulhu, bon... Théoriquement, Cthulhu, on peut pas vraiment le décrire, vous devenez fou quand vous le voyez, mais les quelques descriptions qu'on en a, il faut imaginer une forme, on va dire, vaguement humanoïde, mais qui a la taille un peu d'une montagne. Selon les textes, on dit même qu'il peut faire des kilomètres de haut, donc la taille est vraiment un petit peu générale et un petit peu vague. Qui aurait un visage... qui serait un amas de tentacules avec deux yeux luminescents en son centre, des griffes absolument gigantesques, une paire d'ailes absolument énorme. On se demande à quoi ça sert sous la mer, mais voilà, c'est il a une gigantesque paire d'ailes et une peau qui est une espèce de chose grouillante couverte d'ulcères qui au simple toucher vous détruirait comme de l'acide. Donc on a quand même un look qui dégage bien. C'est surtout en fait ces tentacules qui marquent l'esprit. C'est je pense que c'est vraiment la tentacule qui est la carte de visite, la marque de fabrique de Cthulhu, ce qui fait qu'il peut aussi avoir du succès au Japon. Mais quand même le plus stylé, je pense quand même que c'est Godzilla, parce que il a eu plein de looks au fur et à mesure du temps, c'est ça qui est rigolo. Rien que la taille, par exemple, j'ai fait un peu quelques recherches. Quand il débute dans les années 50, il fait 50 mètres environ. Il fait une petite cinquantaine de mètres dans les 200 000 tonnes. Et au fur et à mesure du temps, il va grossir. Là, sur les dernières versions en 2014, on atteignait donc dans le Shin Godzilla, semble-t-il, 118 mètres pour 600 000 tonnes. Voilà, ouais. C'est un peu les calculs à la louche. Hein.
C'est la pesée. C'est vrai qu'on n'a pas fait la pesée avant le combat.
On n'a pas fait la pesée avant le combat, mais là, il y a une... Bon, alors le problème, c'est qu'évidemment, Lovecraft, il joue dans le flou. C'est un petit peu facile aussi d'avoir un challenger un petit peu impressionnant quand tu le montres pas trop et que t'as le gars, le bonimenteur de foire, qui dit « Vous allez voir quelque chose qui va vous rendre fou, qui a la taille de kilomètre, qui est grand comme une montagne. » Bon, évidemment, là, de l'autre côté, du côté Godzilla, on le montre. Alors, il y a de tout dans le look, hein, parce que, par exemple, à la fin des années 60...
Il n'était pas à son meilleur look.
Ouais, c'était un peu un look de canard, quand même. Je veux dire, c'est
pas
un,
terrible.
C'était les chirurgiens de Mickey Rourke qui l'avaient opéré. Enfin, je sais pas, ça faisait mal au cœur.
C'était compliqué, c'était pas une période très heureuse visuellement.
Non. Mais il a quand même quelques invariants qui font que, il a une bonne gueule. Il a par exemple ses grandes épines dorsales qui peuvent s'allumer lorsqu'il va projeter son souffle atomique, hein, parce que quand même Godzilla a un souffle atomique. Hein, c'est pas rien à tout le monde. Et en règle générale, quand il fait affaire son souffle atomique, il commence par s'illuminer un peu comme un sapin de Noël.
Ouais.
Et c'est notamment tout cette grande épine dorsale, et ça pète la classe, hein, soyons honnêtes. Quand le petit père Godzilla a décidé de faire valoir ses droits, il s'est castagné.
Ça nous fait deux partout, et là, écoute, on va passer vraiment à la bagarre.
L'octogone sans règles.
Qui gagne dans un octogone sans règles entre Godzilla et Cthulhu? Et là, on voudrait essayer de savoir qui gagnerait.
Alors, je crains qu'il n'y ait pas photo, en fait. Parce que, d'un côté, on a un lézard atomique qui est certes de plus en plus divinisé au fur et à mesure des films. Mais enfin, si on fait un peu le total de ses pouvoirs, il a un souffle atomique.
Ouais.
Il a une résistance absolue à toutes les armes humaines, hein, à peu près. Ouais. Il peut se faire quand même blesser un peu par d'autres monstres. Il a une sorte de détection du danger. Il peut avoir des contacts télépathiques de temps en temps avec notamment des jolies jeunes filles. exceptionnellement, il peut voler. Ce qui est pas son meilleur truc, hein, parce qu'il s'agit
c'est
en règle générale de se rouler en boule.
C'est pas le meilleur truc qu'il ait fait, ouais.
Ouais, et d'utiliser son souffle atomique comme réacteur. Et objectivement, il l'a fait une fois. Et je pense qu'il a décidé que, ouais, tant qu'il aurait pas suffisamment de miles pour prendre l'avion, il resterait, enfin, il ne ferait plus ça. Alors, il peut aussi discuter avec les autres monstres avec des bulles de BD.
Oui.
Il est
assez intelligent quand même.
Oui, il est pas idiot. Alors, c'est là aussi, c'est selon les versions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il a une intelligence presque humaine.
Oui.
Et puis il y a des fois où en fait, il a une intelligence autre. C'est-à-dire que c'est pas une intelligence qu'on pourrait quantifier de façon même animale ou humaine. C'est-à-dire qu'il est sur ses objectifs et il avance un peu comme un tremblement de terre.
Oui.
Comme un glissement de terrain. De toute façon, on peut pas l'arrêter.
Oui.
Mais bon, globalement, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'en face, on a quand même un dieu qui est immortel, qui est omniscient, qui rend fou ce qu'il voit, qui a le pouvoir de manipuler la réalité, de s'infiltrer dans les rêves des gens, et qui a un culte international de suivants prêts à se sacrifier pour lui.
Mm.
Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un bon gros lézard, et l'autre c'est quand même un dieu,
oui,
qui peut manipuler la réalité. Alors, l'avantage quand même, c'est que bon, les deux sont des gros dormeurs, hein. C'est honnête, c'est un peu le truc.
Ce qui nous arrange bien quand même.
Ce qui nous arrange, ouais, parce que s'ils étaient un petit peu insomniaques, ça se passerait mal. Alors, pour le cas de Godzilla, ben en fait, il se réveille au fur et à mesure que le box-office l'appelle, hein, que il faut un petit peu rooster des nouveaux monstres qui se sont pointés. Quant à Cthulhu, ben lui, il est coincé depuis des éons et des éons, hein, depuis des milliers d'années dans sa cité engloutie, et semble-t-il qu'il est encore coincé pour un petit bout de temps, puisqu'il faut que les étoiles soient propices, il faut qu'il y ait véritablement un alignement, ou bien, semble-t-il aussi, hein, que ces suivants humains trouvent le moyen de faire le grand rituel qui permettrait d'accélérer peut-être cette correspondance des étoiles. Mais bon, à première vue, avant que Cthulhu sorte, on en a encore pour quelques temps.
Bon,
faut espérer.
A priori, c'est pas pour notre génération.
Bah, vu qu'on sait pas quel doit être l'alignement d'étoiles, voilà, j'ai téléphoné dernièrement à Christinas pour savoir un petit peu sur l'horoscope. Bon, là, Vénus est dans le Sagittaire, donc pour l'instant on devrait être un peu tranquille. Mais voilà, ça reste. On sait qu'il va revenir. Quand il va revenir, ça va pas rigoler. Cthulhu, il va. C'est une menace potentielle. Et on a une petite chance, c'est qu'il est. Bah, il sort pas souvent, quoi. Donc,
bon,
tant qu'il reste, ouais.
Du coup, on est obligé de dire quand même que le point va à Cthulhu. Donc, Cthulhu remporte le combat. Mais j'ai envie de dire, peut-être que... Cthulhu remporte le 1 contre 1. Mais s'il y avait une vraie confrontation, peut-être que Godzilla pourrait appeler ses amis. Et là, peut-être qu'éventuellement... Bah merci Rico, on a dit
bah,
rapidement,
un plaisir.
On a dit rapidement oui. En intro dans quel podcast et sur quel média on pouvait te retrouver, mais où est-ce qu'on peut te retrouver par ailleurs?
Donc sur le podcast Nanarland et sur le podcast Shark Parade, et puis vous pouvez me retrouver sur Twitter, @ultimetrico, où je poste 2-3 bêtises de temps en temps, et puis je vous tiens un petit peu au courant d'avancées des émissions Nanarland, d'avancées des émissions... Shark Parade. D'ailleurs, il y en a un qui va bientôt sortir. Je suis en train de le monter en ce moment. Qui est une émission spéciale, qui est aussi un crossover, puisque dans cette émission, on va parler de James Bond et des requins avec Sofiane de Bondsplaining. On a fait une émission spéciale sur les requins et James Bond.
Bon, bah très bien. Bah, quant à moi, vous pouvez me retrouver dans les autres podcasts de Micro Stockholm, puisque C'est qui le plus fort est un podcast produit par Micro Stockholm. Vous pouvez me retrouver aussi avec Rico dans le podcast Nanarland. et puis sur Twitter. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, merci beaucoup et à bientôt pour un autre combat.
À bientôt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.